Il se vend moins pour l'instant, mais et si la révolution c'était lui, l'iPhone 14, le premier iPhone depuis l'iPhone 4S, qui peut être ouvert par l'arrière. Il suffit d'enlever deux vis et quelques connecteurs pour changer la plaque en verre à l'arrière. Un progrès majeur en termes de réparabilité avec une réparation moins chère et plus simple, mais dont ne profitent pas encore les iPhone 14 Pro. Nous sommes peut-être à moins d'un mois de la prochaine keynote et elle s'annonce aussi passionnante que celle du 7 septembre dernier, puisque ce sera probablement le tour des iPads et des Mac. Alors lesquels, avec quelles évolutions et à quel prix ? On va en discuter. Et puis le tuto audio, cette saison, je vais vous donner mes conseils pour bien réussir votre migration entre deux iPhones et pourquoi pas l'un des nouveaux iPhones de la gamme 14. Il est 18h en ce mardi 20 septembre 2022. À l'instant, nous venons tous de cliquer sur Rec. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. C'est un nouvel épisode d'iWeek, la semaine Apple qu'on vous propose, numéro 104, ou si vous préférez, le quatrième épisode de la saison 3. Je m'appelle Benjamin Vincent, je suis comme on dit le taulier et c'est un immense plaisir de vous retrouver, vous qui nous écoutez chaque semaine et aussi vous, oui vous, la team, la Dream Team qui fête d'iWeek Hebdo, le podcast de référence de l'écosystème Apple. Salut les amis.
Salut mon capitaine.
Salut.
Et salut à vous trois. Je vous représente Fabrice Neumann, comment est-ce?
C'est lui. Et il va bien, il est bien content d'être là pour se détendre aussi, pour rigoler un coup, parce que les semaines sont longues en ce moment.
Bon, très bien. Bon, je rappelle que tu es quand même mentor en technologie, hein, c'est pas donné à tout le monde.
c'est pas toujours prononcé correctement non plus, donc ça c'est bien.
Exactement. Tu es très présent sur Twitter pour ceux qui aiment, @FabriceNeumann, et sur ton site.
Et sur mon site pro-fusion-conseil-pluriel.fr.
Eh ben, c'est un plaisir de te retrouver, Fabrice, tout comme Gilles Dounès, ex-rédacteur en chef de MacPlus.net. Salut Gilles.
Salut Benjamin, bonjour tout le monde. Il faut préciser aussi qu'il est de temps en temps sur commentsamarche.net, le Fabrice.
Absolument. Tu as beaucoup travaillé d'ailleurs ces derniers jours, Fabrice.
Eh ben pas mal, parce que du coup il y avait un petit peu d'actu comme vous savez tous, et donc on a essayé d'avancer un peu pour faire des guides d'achat sur les iPhones et puis présenter les nouveautés, faire un long papier sur comment utiliser, personnaliser son écran d'accueil et des choses comme ça. Donc et effectivement, merci Gilles, comment ça marche.net, absolument.
Voilà. Et puis la statue du commandeur, j'ai nommé Elia Bitbol, président des Apple Premium Resellers en France, rien que ça, cofondateur des magasins MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Comment ça va, Eli ? Est-ce que tu as survécu à ces quatre derniers jours ?
Ah que coucou, et tout va bien. Le ah que coucou, c'est pour le taulier, hein. C'est pour ceux
ah
qui
oui, d'accord, d'accord, oui. Tu fais le malin, mais ta sieste s'est bien passée ?
Ah oh là là, m'en parle pas, j'en peux plus.
On vient de te réveiller
en
fait.
Ce moment. Ben, à peine, hein. C'est pour ça que j'essaye de prendre mes marques. Je me dis, mais je suis où ? Qui est là ? Ouais, c'est très intéressant comme période de l'année, mais en même temps, c'est très, très, très fatigant.
Alors, comment ça s'est passé, ce lancement de la gamme 14 en quelques mots ?
Ben, écoute, en quelques mots, c'était génial. Ça faisait des années qu'on ne faisait pas un lancement comme ça, c'est-à-dire que on a eu un nombre de précommandes record. Généralement, les gens se méfient et en fait, ils préfèrent assurer d'abord chez Apple, par exemple, et ils viennent juste en disant « mais est-ce que vous en avez ?» etc. Et je pense que maintenant, ils se sont habitués au fait qu'on en ait, donc on a eu un nombre de précommandes record. Et du coup, bah, on n'a pas arrêté de la journée, vraiment, on n'a pas arrêté.
Bon, bah, tu vas nous reparler de cet iPhone 14, puisque ça va être un de nos sujets du jour. Évidemment, abonnez-vous au podcast, c'est gratuit sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Abonnez-vous aussi au podcast compagnon de la semaine Apple, à savoir la quotidienne iWeek, notre rendez-vous quotidien, 5 grosses minutes du lundi au vendredi, avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures. Rejoignez la communauté iWeek sur patreon.com/iWeek, vous ferez aussi un bon geste. À ce propos, bienvenue à Nicolas Bibot et merci à Aurélien Ledran. Votre soutien à chacun est hyper précieux. Et puis suivez-nous sur Twitter @iWeekNews et Instagram @iWeek.news. Dans quelques minutes, on va donc se projeter en octobre pour anticiper la prochaine keynote, iPad et Mac. Mais d'abord, toutes les dernières news sur la gamme iPhone 14, à commencer par cette très bonne nouvelle en matière de réparabilité. À tout de suite. Il y a 4 jours, sortaient donc 3 des 4 iPhones de la gamme iPhone 14. En attendant l'iPhone 14 Plus le 7 octobre, j'ai nommé l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Max. Alors on a énormément d'infos à partager en ce mardi soir avec vous. Des retours bien sûr, les nôtres notamment, mais aussi des bugs. Et puis cette très bonne nouvelle qui concerne uniquement, on va y revenir, l'iPhone 14. Pour le 14 Plus, on le saura dans un peu plus de 15 jours. C'est le premier iPhone depuis le 4S à s'ouvrir aussi par la face arrière et ça change beaucoup de choses en termes de réparabilité. Ellie, il se trouve que tu as été l'un des premiers à t'en rendre compte. Explique-nous d'abord comment ça s'est passé et ce que tu as constaté de différent.
Écoute, ça s'est passé très très vite parce que figure-toi que j'ai un technicien qui est à l'affût des nouveautés et qui immédiatement a vu la vidéo et il est venu me montrer ça en disant regarde, c'est incroyable le téléphone, on peut l'ouvrir par l'arrière et tout. Est-ce que j'ai le droit d'essayer ? Et évidemment, je lui dis non. Tu n'as pas le droit d'essayer vu le peu de téléphone qu'on avait sous la main. Mais en tout cas, il m'a montré la vidéo et c'est effectivement assez pratique. En fait, c'est très très facile à réparer en fait. L'iPhone, on peut l'ouvrir toujours par l'avant, mais on peut aussi l'ouvrir par l'arrière. Donc on a deux façons, suivant le type de réparation, d'accéder à l'intérieur de cet iPhone qui est très très bien protégé, justement.
Du coup, on arrive à une conception interne totalement différente entre les modèles pro et les modèles non pro, non ?
Écoute, j'ai pas vu de vidéo pour l'instant chez iFixit ou ailleurs de démontage d'iPhone Pro pour pouvoir le dire, mais je pense que si ça avait été comme l'iPhone 14, on l'aurait dit, enfin quelqu'un l'aurait dit. Donc je peux pas vraiment affirmer comment se passe le démontage d'un 14 Pro, mais je pense qu'on le saura assez vite, mais peut-être qu'ils sont restés sur le design traditionnel des iPhones jusqu'à maintenant. C'est-à-dire démontage de l'écran, ouais. Etc., et accès ensuite aux composants.
Fabrice, Gilles, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, cette réparabilité. Peut-être Fabrice, avant de passer à Gilles, c'est potentiellement un moment important.
Alors, c'est ce que je crois, effectivement, et j'ai envie de dire enfin. Moi j'ai des souvenirs de réparation d'iPhone 4S, mais d'ailleurs qui était fait par les utilisateurs. Il fallait enlever deux vis et puis c'est tout, c'était même encore plus facile. Je me souviens même d'une copine qui a dû casser je sais pas 5 ou 6 dos en verre d'iPhone 4S, mais qui les achetait à l'appel, ça coûtait 20€ et c'était rien du tout à faire, quoi. Ouais. c'était quand même très très bien.
C'était vraiment deux vis à enlever à l'époque. Hein.
C'était juste deux vis. Là, il y avait pas de connecteur, il y avait rien du tout. Mais je pense qu'on a aussi tous donc des souvenirs et ça a l'air donc d'être toujours le cas pour l'iPhone 14 Pro du prix complètement fou pour changer le dos d'un iPhone 13, d'un iPhone 14 Pro. Ça coûte 500 balles sous prétexte que c'est en verre et que tout est lié. Il y a toujours, je pense.
Tu confirmes, Ellie, le prix là sur 14 Pro?
C'est très cher. J'ai pas le prix en tête, mais
c'est plusieurs centaines d'euros quand même pour changer quelque chose.
Oui, plusieurs centaines d'euros, oui. Moi, j'avais dans l'idée vraiment, dans les 400, mais c'est dingue.
Voilà, bon, c'est effectivement, j'ai pas le détail, mais c'est vraiment dans cette période où je trouve que Apple a filé un mauvais coton, où par exemple avec le clavier papillon pour changer le clavier, en plus qui tombait en panne tout le temps, il fallait changer toute la face supérieure du Mac et ça coûtait pareil plusieurs centaines
600,
d'euros,
600, 600 700 euros,
parce qu'il y avait une touche de clavier qui marchait pas. Ouais. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on essaie de faire comme progrès en réparabilité. Donc là, je pense que Apple est en train de faire virer le navire et heureusement, j'applaudis des deux mains.
Gilles, ta réaction est comment tu accueilles cette nouvelle?
Oh, moi, j'applaudis dès aujourd'hui, hein, de suite. Et puis, on est en train de tourner la page, je crois, du toujours plus fin, toujours plus collé aussi, toujours moins réparable. D'autant qu'il y a un indice de réparabilité maintenant qui est obligatoire, que les constructeurs doivent afficher, et ça fait partie des paramètres que les clients, les customers, on dit pas les consommateurs chez Apple en principe, prennent en compte. Moi, ça me paraît une très très bonne chose, effectivement.
Alors, ce qui est surprenant, c'est que le 14 donc, se répare beaucoup plus facilement et de manière beaucoup moins onéreuse. En revanche, comme on l'évoquait, le 14 Pro et le Pro Max, il faut encore passer par les anciennes méthodes qui consistent à tout démonter. Est-ce que c'est compréhensible que dans la même gamme, des téléphones qui sont pas si différents, ou en tout cas c'est l'impression qu'on a, intérieurement, en fait, le soir, Fabrice?
Je pense que c'est justement un des indices qui montre que ce ne sont plus les mêmes gammes. Et qu'on va de plus en plus vers la différenciation entre les iPhone Pro et les iPhone non Pro, et qu'il y a donc des différences de conception. Et c'est assez étonnant. Ce qui est rigolo, c'est que c'est assez mélangé, par exemple. C'est-à-dire que la nouveauté de l'îlot dynamique du Pro n'est donc pas sur l'iPhone 14 non Pro, qui a gardé l'encoche, donc c'est un petit peu, c'est la conception ancienne. En revanche, pour cette conception-là du dos, c'est la conception nouvelle que je pense qu'on retrouvera sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro, en fait. Je pense que c'est la direction qui est prise. C'est même à se demander s'il n'y a pas deux équipes différentes qui travaillent un peu sur la conception des pros et des non pros, et que du coup, ça n'arrive pas. Il ne bouge pas à la même vitesse dans tous les domaines.
Élie, c'était ton hypothèse dans la quotidienne de ce mardi matin?
Absolument, mais j'ai réfléchi à
une différenciation en fait.
Une de plus, mais en réfléchissant à ce que vient de dire Fabrice, il y a peut-être une autre explication, qui est de dire que la gamme personnelle, on va l'appeler comme ça, par rapport à la gamme pro, est destiné à être réparé peut-être par les consommateurs eux-mêmes, puisque maintenant vous savez que la loi américaine les oblige et qu'il y a des kits de réparation. Tandis que la gamme Pro, au prix où elle est d'ailleurs, je pense que quelqu'un hésiterait à faire la réparation lui-même, et en se disant, c'est un produit professionnel, on va le confier à un réparateur professionnel. Peut-être, hein, c'est une pure hypothèse de ma part.
Qu'est-ce que tu en penses, Gilles?
Il y a un truc aussi, c'est la façon d'une part... on s'est aperçu que les parties les plus facilement accessibles, et on a vu que c'était l'écran également dans les tests qui ont été faits, les parties les plus accessibles facilement étaient aussi les plus fragiles et les plus susceptibles de tomber en panne. Un temps, ça a été la batterie, puis ensuite, ça a été l'écran, et ça a un peu bougé. Et puis, il y a aussi la façon dont fonctionne Apple, en ne mettant pas tous les changements dans le même panier, si j'ose dire. On a un changement de design et un changement de... une autre année, un changement de composants, de fonctionnalités. Il y a peut-être un test, là. En attendant, l'iPhone 14 ordinaire essuie un peu les plâtres du changement de design, d'autant que l'iPhone 14 Pro, lui, intègre un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires avec cet îlot dynamique en particulier. Et on ne multiplie pas les facteurs de risque et de plantage dans le même appareil. Je pense qu'il y a aussi cette démarche-là.
Tu veux dire que les modèles Pro éprouvent vraiment les toutes dernières techno, les nouveaux capteurs, etc. Et le 14, lui, expérimente le nouveau design interne et le retour à la réparabilité comme il y a 10 ans quasiment.
Voilà, mais ça n'exclut pas non plus les hypothèses de Fabrice et d'Eli. Hein. C'est toujours plurifactoriel chez Apple.
Ouais, Fabrice?
Bah, je trouve que ça, effectivement, ça va dans ce sens-là, et pour compléter ça, le côté différence entre pro, peut-être plus tenté par le service, extérieur et le côté personnel, pour reprendre l'expression d'Eli. Je te remercie d'ailleurs, parce que je ne sais jamais quoi dire. Il faut dire non pro, tout court. Voilà, on va dire personnel, c'est bien comme idée. De dire qu'on va pouvoir le réparer soi-même, surtout si c'est moins cher et qu'on peut obtenir des pièces détachées, notamment pour le dos qui serait cassé. Et ce qui va dans ce sens, c'est la modification des contrats Apple Care Plus, qui maintenant permettent un nombre de réparations illimité, alors qu'avant c'était limité à 2 sur la durée de vie de l'appareil, je crois que c'est ça. Ellie, tu me corrigeras.
Non, c'était par année,
voilà. Mais donc ça pousse aussi à prendre cette assurance en plus, en se disant moi je veux du service parce que je suis professionnel par exemple, donc je suis capable de payer, ou je suis volontaire pour payer 50 ou 100 euros de plus pour avoir le service si je casse un truc, pour avoir le moins de problèmes possible. Donc, ce serait aussi peut-être une différenciation supplémentaire. Allez savoir, peut-être qu'on aura un Apple Care Plus Pro, Max, Plus Ultra, machin.
Il y a tellement de différences qui sont en train d'émerger entre les modèles grand public, entre guillemets, et les modèles pro. Est-ce que vous pensez qu'à terme, on pourrait arriver à presque deux annonces qui ne seraient pas réalisées en même temps?
Pourquoi pas? C'est déjà le cas du SE, qui est une gamme un peu à part. Le SE est toujours annoncé à un autre moment.
Et puis, on a même déjà le 14 Plus, qui est donc... il a été annoncé, mais il est disponible plus tard.
C'est vrai. Gilles, ça a un sens pour toi de séparer éventuellement les annonces des iPhones à terme, un jour?
Mais c'est déjà le cas pour l'iPad et l'iPad Pro.
C'est vrai.
Pour ce qui est du SE...
Ce sera peut-être pas le cas le mois prochain, mais...
Oui, c'est pas faux non plus.
C'est vrai.
On va en reparler. C'est revenu, l'iPad Pro est revenu à l'automne. Mais il y a aussi une question de disponibilité pour l'iPhone SE et puis l'iPhone Pro Plus ou Ultra, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est une question industrielle à ce niveau-là. Ton hypothèse reste sur la table. C'est tout à fait possible.
Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Si vous avez choisi l'iPhone 14, vous pourrez le réparer plus facilement et pour beaucoup moins cher. Malheureusement, si vous avez un Pro, mais vous avez de la chance parce qu'ils sont quand même très demandés. réconfortez-vous au moins avec cette nouvelle-là. Faites bien attention et optez pour un étui. On va passer aux autres news qui concernent ces iPhone 14, parce qu'on a appris pas mal de choses. Hein. Alors, tu en as entre les mains, Ellie, pour ceux qui ont la version YouTube sous les yeux. C'est quel modèle ça, Ellie, par exemple?
Ça, c'est un 14 Pro en Space Black.
Space Black, voilà. Moi, j'ai mis la main sur un modèle Silver que je vais essayer de vous montrer. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir ou de le toucher, Fabrice et Gilles?
Moi, pas encore, non.
Pas encore.
Moi non plus.
Ellie, alors tes impressions en l'ayant en main, et puis j'imagine que tu en as manipulé un certain nombre depuis 4 jours.
Oui. Bah écoute, moi personnellement j'adore en fait. Au départ je me disais, bon, il n'est pas si différent que ça. Et je me rends compte en l'utilisant par exemple que le Always On Display, c'est pratique. J'ai entendu des commentaires comme quoi ça utilise un peu de batterie et que si vous voulez, vraiment si vous parlez beaucoup et que ce n'est pas une fonctionnalité indispensable, vous pouvez dans les réglages le désactiver et le réactiver quand vous en avez envie. Mais moi d'un coup d'œil ça me donne des informations essentielles, je peux personnaliser les widgets, je peux les changer, je le trouve l'écran encore meilleur si possible, hein, parce que celui du 13 Pro était déjà génial, mais extrêmement lumineux, c'est là où on parle des 2000 nits et avec la possibilité d'avoir un pic, super rapide, et en fait je ne me rends pas compte de l'épaisseur des appareils photo, mais quand on le regarde comme ça, franchement ça commence à être épais, hein. Donc si en plus Apple devait faire un téléphone pliable avec des appareils photo comme ça, ça serait compliqué, mais sinon franchement j'adore.
Je ne sais pas si vous avez vu cette photo où on voit les capteurs des 11, 12, 13 et 14 Pro d'ailleurs, qui sont mis en carré, quoi, qui forment un carré. On voit vraiment l'augmentation progressive de l'épaisseur des lentilles. Hein.
Je me suis amusé à le faire en vrai.
C'est impressionnant. Hein. Mm. Ouais.
Puisque j'ai la chance d'avoir tous ces modèles-là, donc je me suis amusé à les mettre côte à côte, et oui, c'est impressionnant. Donc vivement les objectifs périscopiques peut-être de l'iPhone 15, mais en attendant, déjà, faisons avec.
Alors, le Dynamic Island, cette petite révolution quand même, hein, qui a eu l'effet waouh escompté par Apple. Élie, je me retourne vers toi parce que tu as eu l'occasion de le tester. Qu'est-ce que ça apporte vraiment ?
C'est très spectaculaire par rapport aux choses qu'il fait déjà. Et en fait, on se dit que c'est une nouveauté que personne n'attendait. C'était la bonne surprise. Et ce qui fait qu'énormément de gens achètent le Pro, c'est à cause de ça. Et quand on l'utilise, on se rend compte que c'est bien, mais qu'il a encore beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. On a commencé à voir un certain nombre de critiques ou de commentaires plutôt positifs en disant « Non, mais c'est génial et tout, mais ça pourrait faire plus. » Parce qu'en fait, on l'utilise quand vous désactivez ou quand vous réactivez l'iPhone, donc avec Face ID. On l'utilise quand il y a un appel, mais c'est des choses qui arrivent de façon très fugace. Et quand vous écoutez une chanson, par exemple, et les utilisateurs se disent que tant qu'à être là, on pourrait rajouter des toutes petites choses qui le rendraient plus utile. Par exemple, lorsque vous êtes en train d'écouter une musique, bon, ça apparaît dans le Dynamic Island, mais ce qui serait bien, c'est qu'on puisse appuyer pour faire pause parce que, je ne sais pas, vous avez un coup de fil ou quelque chose comme ça, et faire résume. Pareil pour un podcast. Qu'on puisse, par exemple, faire une avance ou un retour puisque l'information de défilement est là. Pourquoi ne pas la manipuler ? Tu vois, c'est une idée comme ça de choses qui promettent un futur peut-être plus brillant encore à Dynamic Island. Et on a une rumeur dont on parlera tout à l'heure qui dit qu'Apple a été tellement agréablement surpris par la réaction unanime de tous ceux qui l'ont essayé qu'il serait peut-être en train d'envisager de l'étendre à tous les modèles iPhone pour l'an prochain.
Ouais. Bon, du coup, on va plus en parler tout à l'heure, on en parle tout de suite.
On peut. Une petite rumeur comme ça.
Mais c'est très Apple, hein, oui, Gilles.
Oui, on propose et on regarde ce que les gens en font, éventuellement les développeurs, et ça a vocation à devenir un véritable élément de l'interface utilisateur, un truc que personne n'avait vu venir, et peut-être même pas trop chez Apple. C'est ça qui est génial avec cette marque.
Alors, on citait comment ça marche tout à l'heure. Moi, vous savez que je fais un petit tour sur France Info le week-end, et notamment le dimanche. Il se trouve que le week-end dernier, j'ai consacré donc Nouveau Monde, la chronique tech innovation de France Info, à la cohabitation entre l'écran et les capteurs. Et c'est intéressant parce que si on remonte quelques années en arrière, on constate qu'en fait, les fabricants, depuis des années, cherchent la solution pour à la fois avoir un écran bord à bord, donc qui ne laisse de la place à rien d'autre, et en même temps ils ont besoin d'intégrer à la fois les capteurs et la lentille de la caméra frontale qui est indispensable pour les selfies. Et donc c'est vrai qu'on a eu des tentatives assez marrantes, pas toujours très inspirées, mais quand même il fallait oser. D'abord le petit appareil photo rétractable qui sort de la tranche sur le haut de l'écran. Alors évidemment, il y a un petit moteur, donc c'est mécanique, c'est
ça fait du bruit.
Ça fait du bruit, c'est hyper sujet à panne évidemment. Ça doit consommer un petit peu de batterie et puis ça fait une partie qui dépasse. Donc bonjour, on l'accroche sur un blouson ou une poche. Donc ça, voilà. Il y avait aussi l'option de l'aileron de requin. Alors c'est vraiment une sorte d'appendice en forme d'aileron de requin qui se déplie sur le côté du téléphone et dans lequel il y a la petite lentille de l'appareil photo. Et puis, évidemment, il y a eu l'encoche avec l'iPhone X. Et maintenant, le Dynamic Island qui, c'est vrai quand même, hein, fait l'unanimité. J'ai pas vu passer un seul retour négatif sur cette nouveauté. Élie ?
Il y a deux remarques. On a vu un reportage de Mac Rumors où un des chroniqueurs très connus dit « Mais moi, j'avais décidé de ne pas changer l'iPhone cette année.
Ah, »
Et puis j'ai vu Dynamic Island.
c'est toi, en fait.
Non, moi, je ne travaille pas chez Mac Rumors pour l'instant.
Enlève ton masque, Élie, on sait que c'est toi.
Et bah, il dit, bah, dès que je l'ai vu, dès que j'ai pu l'essayer, en fait, c'est devenu indispensable. Et l'autre chose, c'est une marque de téléphone chinois qui s'appelle Realme, que je ne connaissais pas. Ouais. Ils ont, sur leur site web, ils ont dit que c'était génial. Et ils ont lancé un concours pour tous leurs utilisateurs en disant, dites-nous comment est-ce qu'on peut imiter et améliorer ce que fait Apple, parce qu'eux-mêmes ne savent pas comment faire.
Ben justement, Real, ça a été une des marques de smartphone qui a tenté le capteur rétractable, notamment, il y a quelques mois ou quelques années. On va rester sur nos iPhone 14, alors avec des petites nouvelles, des petites news, des petits retours. D'abord, peut-être qu'on peut dire un mot de la qualité des photos avec le capteur 48 mégapixels. Là, les retours sont vraiment très bons.
Alors, ils sont très bons. Et pas tant que ça. Il faut faire attention justement. Je trouvais intéressant là les premiers tests et tout un tas de testeurs ont fait des tests aussi comparatifs. Donc il y a, rappelons que le capteur des iPhone 14 Pro est donc à 48 mégapixels, mais qu'en utilisation normale, il ne produit que des images à 12 mégapixels comme les iPhones précédents et donc les iPhone 14 personnels, pour l'expression d'Eli. Et que la qualité des photos de ce point de vue-là, par rapport à l'iPhone 13, 13 Pro, les améliorations sont pas forcément flagrantes. Ça fait des photos qui étaient déjà très bonnes avant, mais rien de spécial. En revanche, il est possible d'utiliser un mode RAW, RAW, pour prendre des photos et forcer l'iPhone 14 Pro à prendre des photos avec l'objectif principal et à vraiment utiliser les 48 mégapixels de la photo et avoir donc des détails et utiliser les pixels les plus petits. Et donc on a des photos qui sont du coup très lourdes, qui peuvent atteindre 70-80 mégas, l'image, mais qui peuvent ensuite être travaillées pour déboucher des endroits un peu sombres, comme ce que permet le format RAW. Et là, il y a des résultats qui sont absolument étonnants en termes de détails, quand on peut faire un zoom sur la photo et on va avoir des résultats vraiment formidables. Mais en contrebalançant ça, il y a aussi des tests qui montrent un peu des comparatifs. Je vous propose, par exemple, on peut aller voir sur la chaîne YouTube de MaxTech. Ils font à chaque fois des tests un peu en aveugle. Alors, ils sont que deux à tester. Hein. Il y a beaucoup de biais dedans, mais il n'empêche que ils mettent ça en face de deux Samsung, le Fold 4 et le S22 Ultra, et l'iPhone 14 Pro est pas toujours, et voire même assez rarement, en première position en termes de contraste, en termes de couleur, en termes de ceci, en termes de cela. Donc j'ai l'impression que il y a deux choses. Il y a les autres objectifs, donc le grand angle et le zoom, qui n'ont pas vraiment progressé et qui sont donc toujours un peu en retrait, et que le travail sur l'objectif principal avec les 48 mégapixels en fait n'est pas terminé, qu'il y aura sûrement des améliorations logicielles pour vraiment en tirer parti, parce que les concurrents ont quand même fait énormément de progrès en termes d'image, et ça se voit.
Oui, ils ont mis le paquet sur la photo, justement. Raison pour laquelle Apple a forcé sur le mode vidéo. Il y a deux choses pour compléter ce qu'a très justement dit Fabrice. C'est que les constructeurs asiatiques ont un mode très flatteur sur le contraste, sur outre la résolution où on est à 108 mégapixels, hein, je crois déjà chez Samsung. Mais au niveau du contraste, de la vibrance des couleurs, la luminosité avec des écrans qui sont aussi très très flatteurs, on avait ça déjà du temps de la pellicule argentique, où la pellicule Fuji était très avait des couleurs très très pas, presque vives, enfin très 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 flatteuses, beaucoup plus ce que faisait Kodak ou Agfa à l'époque était beaucoup plus neutre, beaucoup plus réaliste en même temps. Il y a quelque chose d'un peu culturel et qui est en train de passer, parce que chez Android, tous les constructeurs sont sur ce versant-là.
Élie ?
Juste un petit complément, parce que je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'ai pu regarder, puisqu'on a évidemment dans nos unités de démonstration, Apple a chargé du contenu depuis qu'on les a reçus. Dans la partie photo, il faut que vous alliez en fait soit chez un APR, puisque c'est ça les démos que j'ai pu voir, soit dans un Apple Store, je pense qu'ils ont les mêmes que nous. Et les photos sont classées par thème, et les photos qui sont dans les iPhone 14 Pro et Pro Max sont incroyables. Donc en fait, oui, certainement, ils les ont pris en RAW, ou alors ils ont de très bons photographes, spécialistes dans les prises de vue, etc. Mais les photos sont tout à fait étonnantes. Donc en fait, des fois, c'est pas le nombre de pixels qui compte, c'est la façon dont on les utilise. Souvent, chez Apple, on a dit ça.
J'aurais voulu juste signaler à nos chers auditeurs d'aller chercher le test de photos réalisé par Austin Mann, qui fait ça tous les ans, et vous trouverez ça si vous faites iPhone 14 Pro caméra review et vous mettez son nom Austin, Austin Mann. C'est très intéressant, c'est un photographe professionnel. Là, il est allé en Écosse pour faire des tests. D'abord, il y a des très belles photos et il va vraiment très loin dans son test. Voilà, je voulais juste signaler ça.
Alors, on s'est dit au moment de la keynote, quand on a appris que les iPhone 14, enfin de la gamme 14 américain, n'auraient pas de tiroir pour carte SIM, on s'est dit que le design intérieur serait peut-être différent et que Apple en profiterait pour peut-être caser d'autres composants. Ben, en fait, non, Élie.
Ben non, en fait, ils ont mis un petit bloc de plastique pour combler le vide, car il fallait pas laisser un trou dans ce téléphone, mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire dans le futur.
Ben, ils vont peut-être le récupérer pour autre chose quand tous les iPhones seront passés à la eSIM.
Ah voilà, ça c'est possible. Et il y a un certain nombre d'expériences d'utilisateurs américains que j'ai écoutées tout à l'heure qui parlent de leur passage en eSIM parce que tous ne l'étaient pas. Et puis maintenant, ils n'ont pas le choix. Hein. Donc, suivant les opérateurs, ben, des fois, ils le font assez vite. Des fois, ça peut demander 1 à 2 semaines. Donc, il y en a qui sont désespérés parce que quand vous avez un nouvel iPhone et qu'on vous dit, la eSIM, oui, la semaine prochaine, vous ne téléphonez pas. Donc, il y en a même qui ont changé d'opérateur parce que les délais n'étaient pas assez rapides. Donc, en France, il y a toujours deux FAI qui ne supportent pas encore complètement la eSIM. Hein, donc, il serait temps qu'ils s'y mettent, les gars, hein, parce qu'à mon avis, avec l'iPhone 5, il risque d'avoir des mauvaises surprises.
C'est l'iPhone 15, tu veux dire. Vouloir dire.
Okay. Pardon, yes.
La eSIM sur l'iPhone 5, alors ça, c'est du hack. Hein.
Dans ta sieste, c'était l'iPhone 5, mais là, on est à 14 et bientôt au 15.
14.
Dans un an.
Oula. Non mais ce truc là on est en plein dans, je trouve, dans la démarche qu'a eu Apple aussi plusieurs fois, par exemple en disant avec nous la disquette c'est fini, avec nous le port audio c'est fini, et ben là avec nous la carte SIM c'est fini. Ils sont en cours, ils vont forcer, ils ont cette capacité à forcer la main. Ils ont aussi essayé avec l'USB-C, ça a pas marché vraiment, ça a pris tellement d'années et on y est toujours pas. Donc il va y avoir quelques grincements de dents parce que tout le monde n'est pas prêt. Et puis je trouve que du coup le fait qu'il y ait encore un petit bout de plastique à l'intérieur, ça ne fait à mon avis que renforcer l'idée que l'iPhone 14, qu'il soit pro ou pas, vraiment un iPhone de transition et que c'est l'iPhone 15 qui verra les vraies nouveautés de design tant interne qu'externe.
Ça va nous valoir une pub un peu moqueuse de Samsung avant qu'ils s'y mettent aussi dans les 15 jours ou 3 semaines.
Bah oui.
Bon, il nous reste 2 sujets à voir, l'autonomie et les haut-parleurs. On commence par l'autonomie. On avait parlé des batteries en disant que c'était quasiment les mêmes capacités que sur les iPhones précédents. Est-ce qu'il y a des changements du côté de l'autonomie avec iOS 16?
Normalement, on gagne 1 heure de plus sur les nouveaux iPhones et avec iOS 16. On a parlé tout à l'heure du fait que Always On Display consomme un peu de batterie. Moi, pour l'instant, j'ai pas de soucis. Là, ce matin, je l'ai mis en marche à 6 heures du matin et je suis toujours à 56% après l'avoir utilisé toute la journée.
Bon, c'est pas mal. D'autres retours sur l'autonomie ou on passe aux haut-parleurs, les amis?
Alors, peut-être on l'a encore signalé quelques tests qui ont été faits. Moi, j'aime bien les tests où il y a un gars qui met tous les iPhones de la gamme disponible actuelle les uns à côté des autres. Il les fait tourner en faisant faire la même chose à chacun, en réglant aussi la luminosité pour que ce soit à peu près la même pour tous les... Voilà. C'est vraiment intéressant, je trouve, de voir. C'est une façon de faire seulement, mais du coup, les 14 et 14 Pro se tiennent vraiment bien. Le 13 mini aussi, d'ailleurs, se tient très bien par rapport au reste. C'est assez rigolo. Donc, c'est moi, celui que j'ai vu, c'est la chaîne de Mister Who's the Boss. C'est pas facile à trouver, peut-être, mais. et c'est intéressant à regarder. C'est une façon de faire, je trouve, intéressante. Il a même racheté des iPhones tout neufs pour être sûr qu'elles étaient, que les batteries étaient neuves.
Bon, c'est pas comme l'autre YouTuber ou influenceur qui s'est laissé tombé dans la piscine avec la boîte de l'iPhone 14 qu'il a déballé sous l'eau.
J'ai pas vu ça.
Pour montrer que l'iPhone démarrait bien sous l'eau.
Du coup, il a ruiné la boîte, cet imbécile.
Il a ruiné la boîte. L'iPhone, je sais pas. On va rappeler que les iPhones sont censés résister à l'eau, mais, mais si l'eau rentre, c'est tant pis pour vous. Hein.
Oui.
Ouais, les derniers iPhones, ils sont quand même très, très résistants grâce à ça. Encore plus quand il n'y a pas le tiroir de la carte SIM, justement.
Absolument.
C'est une raison supplémentaire pour l'avoir enlevé, c'est sûr.
Oui, c'est là où il y a un des capteurs, c'est ça. Et quand un jour ils se chargeront complètement sans fil, c'est-à-dire qu'il n'y aura même plus de connecteur USB-C ou autre, là, ils seront encore plus étanches. Et quand il n'y aura plus de trous dans l'écran et que les capteurs photos seront derrière l'écran, ça sera encore plus étanche. Donc tout ça, c'est pour le futur. On a vu d'ailleurs un test sur la partie vidéo fait par un de nos confrères français qui s'est amusé à le tester sur un jet ski. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc,
j'ai vu passer ça, oui.
Et la Mac stabilisation
Forever,
est...
Mac Forever, je crois.
C'est ça.
C'est ça, Mac Forever, Didier...
Et voilà, et donc il l'a testé et il était assez content en jet ski. Normalement, ça tape assez fort et la stabilisation avait l'air de marcher très bien. Il avait carrément deux iPhones, un qui filmait la mer, l'autre qui le filmait lui. Et voilà, c'était rigolo. Mais en tout cas,
on a vraiment un métier Coluche, comme aurait pu dire Coluche, c'est plus cher, faut un jet ski.
C'est ça, voilà, exactement. Le jet ski n'est pas livré dans la boîte. Bon, dernier mot pour revenir sur la qualité du son sur ces iPhones de la gamme 14. Alors,
j'ai été très surpris.
Mieux ou moins bien que le 13?
Vous qui les avez tous les deux, là, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais.
Écoute, moi j'ai trouvé ça mieux et ça a été spontané parce que franchement, je ne m'attendais pas à tester ça. Mais il se trouve que j'ai regardé un film dessus parce que je voulais voir un peu la qualité d'écran, etc. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est le son. Et je l'ai trouvé meilleur. Et comme j'ai l'iPhone 13 Pro à côté, j'ai pu comparer. Et franchement, il est meilleur. Après, je me suis amusé à écouter un peu de musique. Et franchement, c'est mieux. Je ne peux pas dire en quoi, hein, mais c'est mieux.
Bon, tu as déjà vu tout en dehors sur ton iPhone 14, c'est ça?
Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Attends, demain, Andorre. Demain.
Non, c'est pas aujourd'hui. Demain, ah oui,
non,
le
21.
Le 21, le 21, c'est ça.
Et oui, j'aurais
on est
bien
combien
vu.
Aujourd'hui, là?
Je suis perdu.
On enregistre
le 20,
on sera dispo le 21, donc...
Oui.
Oui.
Bon, soyez sympas, écoutez-nous avant de commencer Andorre, sinon vous nous écoutez quand l'iPhone 16 sortira. Bon, voilà pour tout ce qu'on pouvait dire au sujet de ces iPhone 14. On attend évidemment l'arrivée du Plus le 7 octobre. Dans un instant, on va passer au deuxième gros sujet de la semaine, cette keynote du mois d'octobre qui nous tend les bras. À dans un instant, à tout de suite. Tout porte à croire qu'octobre sera à nouveau un mois de keynote pour Apple. Après les iPhone 14, les Apple Watch et les AirPods Pro, ce devrait être dans quelques semaines autour des iPad Pro, mais aussi des Mac. Alors, je vous propose qu'on commence par évoquer l'évolution attendue des iPads. Et d'abord, des iPad Pro, et on va le faire avec l'aide de Logitech, qui n'est pas le sponsor de cet épisode, mais qui en revanche a réalisé une belle petite boulette sur son site web, puisque deux nouveaux iPad Pro sont mentionnés sur le site web de Logitech. En tout cas, ils l'ont été en début de semaine. Alors, il était question d'un iPad Pro 11 pouces de 4e génération et d'un iPad Pro 12,9 pouces de 6e génération qui, je cite, « coming soon », arrive bientôt. Voilà, ils apparaissaient... On va parler au passé dans la liste des iPads compatibles avec le crayon Digital Pencil, qui est l'autre stylet compatible avec les iPad Pro en plus de l'Apple Pencil. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on est quasiment sûr maintenant que ces nouveaux iPad Pro arrivent lors de la prochaine keynote, potentiellement le mois prochain ? Et est-ce que ce sera bien du M2 comme on s'y attend ?
Ah, ça, on aimerait bien savoir. Je pense que oui. En même temps, Logitech, ils ont fait une bourde, mais eux, à la limite, sont gentils par rapport aux fabricants de coques, puisque je vous rappelle que dès juillet, on avait des échantillons de toutes les coques de la nouvelle gamme. Hein. Donc, c'est assez fou.
Tu veux dire,
quand même.
Quels échantillons, quoi ?
De coques pour iPhone 14. Donc,
ah,
pas
iPhone.
Pour iPad, pardon.
iPhone.
Oui, oui.
iPhone.
Mais c'est aussi le cas quand il y a des échantillons de coques pour iPad. Hein. C'est vrai qu'on les surveille d'un peu moins près. Mais ils nous avaient tous proposé des échantillons de coques iPhone dès le mois de juillet pour une annonce en septembre. Hein. Alors, il n'y avait pas le nom des produits, hein, par contre, dessus. Mais c'est pour dire que des fois, ça fuite. Alors, je ne sais pas si Apple est d'accord ou pas d'accord, mais c'est devenu presque une habitude d'avoir les coques un à deux mois avant la sortie des produits. Donc,
Sûr qu'Apple soit d'accord, mais Gilles, est-ce que tu crois que ça peut être des fuites volontaires avec l'aide d'un partenaire ?
Que ce soit une sorte de teasing de la part d'Apple avec l'aide de Logitech, pourquoi pas ? Phil Schiller était soupçonné d'alimenter, d'instrumentaliser un certain nombre de fuites comme ça. Ils ont peut-être gardé les bonnes habitudes. Les coques deux mois avant les lancements, c'est davantage du bousculade, moi le premier à regarder mes coques qu'autre chose à mon sens.
Oui, ça révèle pas grand chose hein, à part la taille hein. Ça révèle pas les caractéristiques.
C'est ça.
On a vu quand même l'augmentation de la taille du bump de la bosse des capteurs photo.
Bien sûr.
C'est vrai. Bon, on va rester sur les iPad Pro eux-mêmes. Bon, déjà, a priori, les diagonales ne changeraient pas. On resterait sur 11 pouces et 12 pouces 9. C'est déjà un premier indice. Qu'est-ce qui vous fait hésiter à propos du passage de M1 à M2 ?
Pas grand-chose, hein. Ça devrait logiquement être un M2.
Est-ce que c'est la seule évolution dont on est pas connaissance, mais est-ce qu'on a d'autres infos sur ces nouveaux iPad Pro potentiels ?
Non, je pense qu'ils vont améliorer probablement la photo. Alors, est-ce qu'ils vont oser mettre un Dynamic Island dessus ou est-ce qu'ils vont, à mon avis,
question
vont le laisser
je voulais te
à
poser.
L'iPhone cette année ?
Alors, même aux iPad Pro ?
Mais l'iPad Pro et l'iPad globalement, ce qui est intéressant avec les iPads, je trouve, dans le domaine de l'ILO dynamique, c'est que les iPads ont encore un bord autour de l'écran. Donc les iPads n'ont pas besoin d'avoir un trou ou une encoche ou quelque chose. Ce qui peut rendre, en revanche, l'ILO dynamique, c'est quelque chose de logiciel. Et donc, ça pourrait être intéressant de voir si Apple décide et considère que c'est un élément d'interface qui est intéressant et important. Rien n'empêche de faire un peu la même chose, uniquement logiciel, sans que ce soit là pour cacher quelque chose. Parce que globalement, oui. Le tiret du 8, là, comme je l'appelle,
la pilule,
c'est l'ILO, c'est comme une barre de menu. Ça peut devenir une sorte de barre de menu un peu à la Mac, quand même. C'est une sorte d'équivalent de barre de menu. Et si c'est pas lié à un trou dans l'écran, du coup, c'est intéressant pour l'iPad parce que l'iPad, on l'utilise en mode portrait ou en mode paysage. Et à ce moment-là, cette barre de menu, je mets beaucoup de guillemets, hein, puisque ça ne s'appelle pas comme ça, mais pourrait être sur le bord long ou le bord étroit. Et ça pourrait être très bien comme élément d'interface de multitâche. Je trouve ça vraiment intéressant. Cela dit, pour les iPads qui nous viennent, donc du coup, ça n'a pas besoin d'être un changement matériel, mais je vois plutôt ça dans iPad OS 17, parce que sur des éléments d'interface comme ça, l'iPad est un petit peu en retard, comme pour les widgets par exemple, qui sont arrivés une version plus tard. Donc on va sûrement avoir l'îlot dynamique sur tous les iPhone 15, quelle que soit la gamme, et quelque chose qui serait adapté à l'iPad, qui pourrait bouger sur l'écran en fonction des besoins de la rotation de l'écran. Ça, je trouverais ça intéressant, mais pas sur ceux qui vont arriver en octobre.
Le fait que iPadOS ait été décalé à octobre, c'est un des signaux qui nous font penser à cette keynote aussi, hein, le mois prochain, avec des iPads.
Oui, et le fait qu'il va partager des fonctions avec Ventura, et que c'est assez logique de montrer les deux en même temps.
Ouais. Du côté de l'iPad, alors l'iPad non pro, à quoi on peut s'attendre à votre avis comme évolution ? Ce sera la 10e génération, hein, c'est ça ?
Oui. Et on n'en a pas beaucoup parlé parce que généralement, c'est l'iPad d'entrée de gamme. Mais à chaque fois, c'est celui qui se vend le plus, évidemment. Et la seule chose qu'on peut dire, à part que peut-être ils vont augmenter légèrement la taille de l'écran, c'est qu'il sera probablement USB-C, parce qu'on s'approche un peu de la deadline de la Commission européenne sur ce qui est l'USB-C. Et il serait malvenu de sortir encore un iPad Lightning cette année, quoi. Je pense que ça va migrer progressivement.
C'est très progressif. Hein.
Nos amis de 9to5 Mac disent que ce serait la mise à jour, l'évolution la plus significative de l'iPad depuis 10 ans, donc quasiment depuis sa création.
Waouh. Ben, la question, c'est dans ce cas-là, que devient l'iPad Air, qui est quand même un produit très populaire, qui va lui sans doute aussi évoluer. Ils ne peuvent pas trop le rapprocher, ça doit rester un produit d'entrée de gamme avec un gros différentiel de prix, parce que sinon du coup l'iPad mini, même si Apple en produit très peu malheureusement, et l'iPad Air risquerait d'être affecté, à moins que tout évolue d'un coup. Mais ouais, ça fait beaucoup, hein.
Parce qu'effectivement on parle du passage à l'USB-C, on parle de la possibilité de connecter ce nouvel iPad à un écran externe, notamment au Studio Display. On parle aussi d'un écran Retina, comme sur l'iPad Air.
Et le Pencil de deuxième génération, parce que le premier, c'est un truc qu'on se traîne depuis des années, qui ne correspond plus à rien. Il est qu'on ait un seul modèle de Pencil. Hein.
Et puis on parle aussi d'une légère augmentation de la diagonale de 10,5 à 10,9 pouces.
Ah.
Ça, ce serait un indice qui pousserait l'iPad d'entrée de gamme vers un design au bord plat, et donc avec des bordures un peu plus fines, parce que c'est comme ça que les écrans ont augmenté de diagonale notamment, et qui permettrait du coup l'adoption du Pencil deuxième version. Mais moi je serais pas étonné quand même que les iPad Pro, et alors il n'y a aucun indice là-dessus, mais je reste persuadé que Apple travaille à un iPad que moi j'appellerais Studio, à encore plus grand écran.
Ah, tu le veux,
et
hein.
Celui-là aurait un Pencil 3e génération forcément, parce qu'il y aurait plus de fonctions dedans.
Ouais, c'est pas idiot. Juste sur l'iPad tout court, hein, numéro 10, Mark Gurman tape sur un A14 Bionic à l'intérieur. Donc ce serait
parce que c'est la 13 qui équipe l'iPad d'entrée de gamme aujourd'hui.
La puce d'après.
Il y a un truc, c'est que déjà, si ma mémoire est bonne, Apple avait déjà présenté la version précédente comme le rafraîchissement le plus important de l'iPad depuis sa création. Ça demande à être vérifié, mais il semble bien que c'est quelque chose comme ça. Mais il faut absolument que Apple revitalise, redonne un peu de clinquant de peps à cet iPad-là, qui est l'iPad certes le plus vendu, mais il est sur un marché très concurrentiel, sur le marché de l'éducation.
Ben oui.
Où les autres ne restent pas les deux pieds dans le même sabot. Et donc, si Apple veut continuer à faire la course en tête, il faut absolument qu'il continue à avoir un produit attractif et effectivement, pourquoi pas, avec un stylet, un Apple Pencil, pardon, de deuxième génération qui fait davantage un truc plus réactif, puisse faire de l'écriture, etc.
Ouais. Bon, qu'est-ce qui va se passer ?
L'USB-C dont on a parlé tout à l'heure permettrait de faire ce qu'a dit Benjamin, c'est-à-dire connecter un écran, mais connecter aussi une clé USB ou un dispositif de stockage, qui aujourd'hui sont quand même très 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 demandés dans l'éducation. Et ça résoudrait tout ça d'un coup.
Ouais. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe avec l'iPad Air ?
Quelle belle question.
C'est très, très intéressant la question, parce qu'il évolue. Il est déjà mal placé, en fait.
Bah oui.
Mais très populaire, par contre.
Très populaire ?
Oui.
C'est vrai ?
C'est l'iPad, c'est l'iPad qui se vend le plus, après évidemment le 9e génération, parce que c'est le moins cher, mais très populaire à cause des couleurs, à cause du poids, à cause de l'USB-C, de ces fonctionnalités-là. Quand même, l'iPad Air a remplacé en fait l'iPad Pro 11 pouces complètement, mais vraiment, il l'a remplacé complètement, tant qu'il n'y a pas un iPad Pro qui serait avec un processeur ou avec d'autres fonctionnalités très différentes.
Fabrice ?
Ben oui, le truc, c'est que j'en connais aussi qui, justement, voulant changer d'iPad, hésitaient entre l'iPad Air et l'iPad Pro, et la différence de prix quand tu prends en compte la mémoire et que tu voudrais plutôt un modèle à 128 Go, et que l'iPad Air c'est 64 ou 256 et que ceci cela, et bout à bout, eh ben ils ont acheté un iPad Pro. Voilà. Et en fait la vraie difficulté, je crois, pour Apple, c'est le nom. C'est-à-dire que il y a marqué Pro, alors il y a des gens qui se sentent pas concernés, donc ils vont pas regarder, alors qu'ils auraient peut-être intérêt à prendre l'iPad Pro, justement parce que l'écran ProMotion et tout un tas de choses comme ça.
Ouais.
Et que l'iPad Air, il est pas si Air que ça et on comprend pas bien. Et moi c'est très bizarre le placement de ce produit, en fait. Je pense qu'il a du mal à vivre quand même.
Pourtant, il est très demandé, hein, comme tu le dis, Ali. Hein.
Oui, parce qu'il y a quand même 300 euros d'écart entre les deux. Et 300 euros, à part pour les pros, bah, ça compte. Hein.
Bah oui,
parce que c'est presque le prix d'un iPad complet de 9e génération. Hein, donc,
Bon, en tout cas, il n'y a pas de mention de l'iPad Air pour cette keynote du mois d'octobre. En tout cas, dans la plupart des news qu'on a pu...
Ce serait une différenciation, l'iPad Air avec la puce M1, les iPad Pro avec la puce M2, ce serait déjà plus facile de différencier.
Pourquoi pas.
C'est l'iPad Air, hein, c'est l'iPad des étudiants, en fait, hein, du supérieur.
Ouais. Donc, on aurait l'A14 Bionic sur l'iPad, le M1 sur l'iPad Air et le M2 sur les iPad Pro, c'est ça ?
C'est ça.
Ouais, ça a peut-être plus de sens, effectivement. Bon, on parle toujours de cette éventuelle keynote du mois prochain, du mois d'octobre, la deuxième de la rentrée. Cette keynote devrait notamment être largement consacrée aux nouveaux Mac, à deux nouveaux Mac, enfin à deux DE, hein, parce qu'il y en aurait plus que deux potentiellement lors de cette keynote.
Oui. Bon, tu fais bien de préciser.
on va commencer par ce qui serait, alors je vais pas dire la plus grande surprise, parce que ce sont des Mac qui ont déjà évolué vers les processeurs Apple, mais on s'attendait pas à ce que les MacBook Pro 14 et 16 pouces évoluent un an à peine après leur annonce. C'est peut-être ce qui est sur le point d'arriver.
Parce que vous ne m'écoutez pas.
Ouais. Ça, c'est vrai, Gilles.
Écoutons Gilles, alors, vite.
Redis-nous.
Parce qu'ils ont en train de... Pas possible, là. Ils sont en train d'enfoncer la concurrence. Donc, ils ont la possibilité de mettre du M2. Ils sont prêts. Il faut qu'ils foncent. Il faut qu'ils creusent l'écart. Faut pas que les autres aient le temps de se retourner, de s'organiser. Il y a des communications qui sont faites ici ou là par soit par Intel, soit par Qualcomm. Je dis peut-être une bêtise. Je sais plus le nom du fondeur concurrent de TSMC. Et donc il faut qu'ils continuent à creuser l'écart et à sommer la concurrence s'ils veulent. Prendre leur revanche, ce qu'ils essaient de faire depuis qu'Apple a eu IBM dans les pattes pour le concurrencer, essayer de prendre le leadership, au moins en valeur, si ce n'est en volume.
Je ne crois pas du tout à cette explication, Gilles. À mon avis, ils ont besoin d'une justification pour augmenter encore les prix. Non, mais ils vont augmenter les prix, donc il faut que ça s'appuie sur un changement de processeur. Sinon, ça va être une grosse augmentation. Donc, si ça reste le même pros que l'année dernière, ça passera pas.
C'est sûr. Bah, en fait,
on peut faire évoluer le processeur, c'est pas.
Comme souvent, ça dépend simplement de si le processeur M2 Pro ou M2 Ultra est prêt ou pas. S'il est prêt, il n'y a aucune raison qu'il ne le sorte pas. S'il est en retard, ben ça peut repousser un tout petit peu. Parce que le design ne changera pas, c'est juste le processeur. Et donc, s'ils peuvent creuser l'écart parce qu'il est prêt, ben, welcome, allons-y. Hein. Ce n'est pas le Mac qu'on attendait à ce moment-là. Mais du coup, si c'est lui qui devient le héros, comme dit Apple, ou la vedette, du coup, ça peut repousser ou alors faire passer presque inaperçu les autres Mac qu'on attend. Et dans la petite liste qu'on a fait, là, il y en a un qui manque. Non, mais on ne va pas en parler, mais il y en a un qui manque et qui n'est pas là-dedans. On va voir si vous le trouvez. On va arriver à ça.
Très bien. Alors, on va rester sur les MacBook Pro pour l'instant. Fabrice, comment est-ce que tu comprendrais cette évolution à peine un an après leur arrivée ? Leur annonce.
Leur annonce. J'aime bien, avec les guillemets qui s'imposent, ton explication, parce que je pense aussi que les prix vont monter. Je remarque, cela dit, qu'ils n'ont pas eu besoin de changer le processeur de l'iPhone SE pour en augmenter le prix. Donc rien ne les empêche d'augmenter le prix des MacBook Pro actuels pour dire parce que c'est comme ça, voire ils disent rien, il y a un nouveau prix, ils disent rien du coup. Le M2, ouais, j'ai vraiment du mal. En fait, je vais patienter un peu. J'aurais tendance à penser que ce serait d'autres Mac, moi, qui seraient présentés au mois d'octobre, plus autour de la création.
Bon, alors on va passer aux autres hypothèses. Vous avez compris que du côté de ces MacBook Pro 14 et 16 pouces, la principale évolution, ce serait probablement le processeur. On passerait donc du M1 au M2. On retrouverait sans doute la même gamme, c'est-à-dire du Pro, du Max et
de l'Ultra.
L'Ultra, c'est que sur le studio pour l'instant. Ouais, c'est que pour le studio.
C'est moi qui ai dit tout à l'heure Ultra, mais en fait, je me suis planté. C'était Pro et Max. Merci de me corriger.
Pro et Max.
Voilà. Donc, on n'a pas beaucoup d'autres rumeurs autour de ces MacBook Pro. En revanche, il y a au moins deux autres Mac qui seraient présentés lors de cette keynote du mois d'octobre. On va commencer par le Mac Mini. Ça fait un moment qu'on en parle. Hein.
Oui, parce qu'il avait été annoncé en même temps que les premiers M1. Donc, dans la gamme, à l'époque, il y avait le MacBook Air, le Mac Mini et le MacBook Pro. Et donc là,
ça fait deux ans, va faire deux ans.
Oui. Et donc, ils sont passés au M2 et le Mac Mini, pour l'instant, non. Sauf si ça devenait un outil de création, comme disait Fabrice, et qu'il aurait une place à part pour compléter le Mac Studio, on va dire, pour avoir une entrée de gamme dans la partie.
Alors, il y a l'évolution de processeur attendue. Il y a l'évolution de processeur attendue, mais ça fait un moment aussi qu'on parle d'une évolution du design du Mac Mini avec davantage de ports notamment. Tu n'y crois pas, Fabrice, toi, à cette évolution ?
Non, j'y crois pas à cause de l'historique du Mac Mini qui a toujours été une sorte de parent pauvre évoluant tous les 4 ou 5 ans. Et un Mac Mini, en gros, je pense, et moi je fais partie de ceux qui aimeraient bien voir un Mac Mini M2 ou M2 Pro ou M1 Pro, etc. Mais je pense que c'est un vœu pieux qu'Apple ne réalisera pas parce que ça le ferait rentrer en concurrence avec le Mac Studio. Si un Mac Mini un peu plus puissant, il y a plein de gens qui pourraient se dire c'est vraiment suffisant du coup j'ai pas besoin de ça et j'ai pas besoin de passer au Mac Studio. Et là c'est vraiment de la gestion de gamme aujourd'hui finalement.
Mais il y a le studio display maintenant, il y a de l'écran à vendre aussi avec Mac.
Ouais, mais le Mac Mini à 800, 1000 euros, 1200 euros, je crois pas que ce soit la même cible. Et résultat, la vraie limitation du Mac Mini aujourd'hui pour des créatifs, par exemple, c'est la mémoire vive. Donc le M1 est limité à 16 gigas. Donc quand on veut faire de la vidéo, du montage 3D, etc., bah, il est un petit peu faiblard en termes de mémoire. Pas en termes de calcul finalement, mais en termes de mémoire. Donc on met du M1 Pro ou du M2 Pro, on peut monter à justement 24 comme pour le MacBook Air, ou 32 parce qu'on passe au Pro, ceci, cela. Et ça le met en concurrence directe avec le studio, et je pense qu'ils n'ont pas envie de faire ça. Donc moi je pense que le Mac Mini va rester sur le M1 en entrée de gamme pendant quelques temps encore, et qu'il bougera pas, et qu'il passera au M2 quand les autres seront au M3, quoi, en fait. Ils veulent vraiment garder quelque chose de très 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 entrée de gamme, et surtout pas faire de l'ombre au-dessus.
Gilles, c'est quoi ton sentiment sur l'annonce éventuelle d'un nouveau Mac Mini le mois prochain?
Il est très attendu, ce Mac Mini M2. Alors, j'aurais tendance à penser comme Fabrice, mais si on voit la gamme de l'iPad, il y a un truc très entrée de gamme qui est revitalisé, qui est rafraîchi, qui reprend du peps. Donc, c'est pas non plus impossible. Il faut savoir combien, si le Mac Studio se vend bien.
Mais justement, Apple va pas sortir un Mac Mini M2, sachant que le Mac Studio est encore en M1.
Mais il n'est pas impossible qu'il se mette en M2 lui aussi, hein.
Ah, alors ça, c'est une hypothèse qui est pas sur les tablettes, a priori, pour le mois prochain, non. Mais...
Bah non.
Eh oui. Donc du coup...
À ce moment-là,
ça n'aurait de sens que si le Mac Mini sort éventuellement au M1 Pro, par exemple, ou... Tu crois pas, Elie?
On en avait parlé à un moment donné, c'est vrai.
Bon, je sais pas s'il y a d'autres Mac dans le spectre, MacBook Pro M2, Mac Mini...
Alors,
on parle du Mac Pro?
Du Mac Pro, du Mac Pro, parce que... Parce que
la boucle n'est pas bouclée. La boucle n'est pas bouclée. Hein.
Et non.
Non, non.
Et ça va faire 2 ans.
Ah oui, pour le Mac Pro, pardon. Oui.
Mais oui.
Ah oui, oui.
Mais il y a encore d'autres.
Alors,
Macs, hein. Attendez.
Ils ont fait peut-être. Ils ont fait peut-être. Allez, je vais encore manger mon chapeau. Mais c'est une sorte d'erreur potentielle à la AirPower. Parce qu'ils ont annoncé le Mac Pro. Ils ont dit qu'il en reste un.
Oui, c'est vrai.
Il reste le Mac Pro.
C'est vrai.
Depuis, rien du tout. Pas une seule rumeur. Rien du tout. C'est quand même très, très, très surprenant. Et en plus, je vois pas... le Mac Pro a rien à faire, hein, dans un événement d'octobre avec les iPads, quoi.
S'il y a des MacBook Pro, pourquoi pas un Mac Pro?
Ouais, mais on vient de tomber d'accord pour dire qu'il n'y avait pas de MacBook Pro.
Non, mais ils vont pas faire un événement uniquement pour le Mac Pro.
Non.
Il peut y avoir un thing.
L'événement, c'est la WDC pour le Mac Pro. Donc, s'ils l'annoncent pas en juin, c'est forcément un événement où il y a du matériel grand public. Sinon,
parce qu'ils n'ont peut-être pas le processeur qu'il faut, parce que un Mac Pro, même avec un M2 Ultra, ça serait de l'incrémental. Ce serait rapide, certes, mais de l'incrémental. Le processeur de rupture, ça sera peut-être le M3 ou le M4.
Non, mais je pense que le Mac Pro aura un processeur différent, une gamme à part, à mon avis.
Un processeur de
le X ou je sais pas, le Z ou le...
On avait entendu parler de Extreme, qui serait en fait deux ultras collés.
Je crois même pas à ça. À mon avis, je verrais bien
plusieurs
le Mac Pro avec son processeur. Qui serait forcément un cousin
l'équivalent
des
autres, d'un serveur. L'équivalent d'un serveur, en fait.
Ouais, peut-être, ouais.
Je suis pas sûr.
Parce qu'avec le Mac Studio, en fait, ça devient difficile de...
Ah oui.
Il faut aller taper bien plus haut, donc...
Ouais, il faut taper très haut.
C'est pas juste en faisant
x2 que... En termes de présentation, comme on a, entre guillemets, raté la WWDC... j'aurais tendance à penser, moi je vois pas le Mac Pro au mois d'octobre, mais du coup ils vont peut-être prendre un peu de retard par rapport aux 2 ans annoncés, mais plutôt en, mettons, janvier et présenté en même temps que le casque de réalité virtuelle.
Eh ben, j'étais en train de me dire ça. J'étais en train de
créer, pour créer vos mondes de réalité virtuelle, voilà le Mac Pro avec le M52 qui a tellement de cœur qu'on n'arrive même plus à les compter et que ça va être formidable et que vous allez pouvoir créer vos mondes en 3D virtuel en temps réel.
Ouais, ouais. J'étais en train de me dire
ça. Et voilà, c'est, il va être, on pourrait penser qu'il va être placé comme ça, quoi, pour vraiment pour la création de ces mondes-là, pour faire des calculs super vite, etc. Et ce sera peut-être celui-là qui aura justement une entre guillemets carte graphique à tomber par terre, parce que justement il pourra faire la 3D sans respirer, quoi.
Bon, bah, j'ai une bonne nouvelle. Hein, si jamais il était annoncé en janvier et peut-être au CES à Las Vegas, comme on l'a imaginez, je serai au CES, donc je pourrai vous en parler de là-bas. Voilà.
Ah, très bien. Voilà. Et tu reviendras avec, naturellement.
Et ouais, dans ma valise.
Bien sûr. Faut prévoir un supplément de bagages.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est une des hypothèses. Hein. C'est vrai que moi, je trouve ça, ça aurait de la gueule. Hein.
Ouais. Mais.
Ça aurait certainement de la gueule. Mais, vas-y, Élise, tu as quelque chose à nous dire depuis tout à l'heure. Je te sens.
Mais oui, parce que là, on a oublié deux Macs. Un qui existe et un qu'on aimerait qu'il existe. Parce que imaginez-vous que le iMac 24 pouces, logiquement, aurait dû évoluer après le MacBook Air et avant les MacBook Pro, dans la logique de la gamme Apple. Il aurait dû passer en M2 depuis un petit moment. Donc ça, c'est pour le MacBook Air, on avait de MacBook Air, pour le iMac, pardon, et on avait parlé de nouvelles couleurs, etc. L'iMac est un produit qui se vend, qui est très sympa, qui a son public, mais il a besoin d'un rafraîchissement. Maintenant, on a dépassé la date. Et l'autre Mac, pour être complet, c'est ce merveilleux 27 pouces M quelque chose, donc que tout le monde veut, à commencer par François, mais qui n'arrive pas d'arriver. Donc, peut-être un jour.
Donc, tu parles de deux iMac. Tu parles de deux iMac. Donc, l'iMac 24 qui passerait au M2.
Oui.
Et le fameux 27 pouces ou plus grand, parce que 27 pouces, c'est presque trop petit, finalement, pour qu'il y ait une différence vraiment.
Ouais, c'est-à-dire que la gamme desktop, avec tout ce qu'on vient de dire, hein, le Mac Mini qui évolue pas, le Mac Pro qui évolue pas, elle est un peu pauvre, hein, cette gamme desktop. Hein, et pourtant, c'est presque la moitié de la gamme Apple. Hein, donc, elle a besoin d'un peu de rafraîchissement, on va dire.
Bon.
Elle est peut-être dans le cocon.
Peut-être.
Bon. Donc voilà pour, en gros, les probabilités, elles sont sur ces produits-là. L'iPad, l'iPad Pro, le Mac. Est-ce que vous voyez éventuellement autre chose? Je pense qu'on va ressortir nos vieilles casseroles du début du mois qu'on n'a pas utilisées. Donc, Apple Classico, le AirPod Max, Apple TV.
Attends. Avant ça, moi, je voudrais mettre une pièce sur autre chose.
Ah.
Sur le fait que... je crois vraiment, alors pour le mois d'octobre là ça me paraît un peu juste parce que on a rien vu, mais je pense vraiment que Apple va développer l'utilisation du mot studio. Et donc je continue à penser que l'iMac à grand écran, qu'il soit 27, 28 ou 29, va s'appeler studio. Et ça aurait de la gueule. Alors c'est aussi là encore
demande,
un peu pieux.
Demande 10% si c'est le cas, parce que c'est vraiment ton ton truc là.
Moi je pense, mais depuis ça fait des mois que je vous dis que cet iMac va s'appeler iMac Studio et voilà. Et ça aurait de la gueule. Alors ça aurait de la gueule si en plus, alors là attention, là je suis on va se demander si j'ai fumé, mais qu'il soit annoncé en même temps que l'iPad Studio, quoi. Naturellement, pour moi c'est ça aurait du sens. Mais pour l'iPad Studio, j'y crois pas du tout là tout de suite.
Tu veux dire le très grand iPad du coup là pour le coup.
Ouais, qui serait à 14 pouces et demi, qui pourrait faire voilà tablette graphique grand format. Là, j'y crois naturellement pas pour octobre. L'iMac à grand écran qui porterait ce nom-là, pourquoi pas là maintenant, effectivement, en termes de différenciation, parce qu'on n'arrête pas de parler de ça, une différenciation de gamme, un iMac Studio avec un M2 qui peut monter à 24 Go de RAM avec un plus grand écran, ça aurait un peu de gueule, ouais.
Je suis d'accord.
Bon, et donc mes idées alternatives, Apple Classical, AirPod Max, Apple TV.
Ça fait un peu mélange par rapport à une keynote Mac, très Mac, on va dire.
Ouais. Hein.
Ventura, les iPads parce que iPadOS. Mais ça que viendrait faire Apple Classical là-dedans?
Ils ont commencé très tôt. Je verrais bien une troisième keynote.
Ah, là, pour le coup, c'était ma question d'après.
Oui.
Je suis désolé.
Pour la musique. Et
non, mais très bien, très bien, très bien.
Consacré à la création. Consacré à la création, souvenez-vous, on a parlé d'un Final Cut Pro optimisé, très optimisé pour le processeur M.
Profitez-en, il sera plus cher le 5 octobre. Hein, donc.
Exactement.
Achetez-le avant.
Tu as débusqué une augmentation de prix significative. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose de cet ordre-là qui est en préparation avec, pour le coup, la présentation de l'iMac Pro? Et faudrait regarder ce que donne.
Toi, tu mises sur iMac Pro. Nous avons iMac non. Studio à ma gauche.
Pardon, non, pas l'iMac Pro, le Mac Pro.
Ah.
Bêtise. Le Mac Pro avec. Logique, éventuellement Logic Pro également, un truc consacré donc à la création et ça serait la place pour les nouveaux AirPods et les nouveaux HomePod dont on a parlé également. On a une deadline pour Apple Classical qui est la fin de l'année également.
Oui.
Pourquoi?
Et pour les HomePod. La même, c'est-à-dire que s'il y a un événement que moi j'appellerais plutôt musique, ce ne serait pas du haut de gamme forcément, mais effectivement, ce lossless qu'on attend depuis longtemps, Apple a le codec, les avocats se penchent dessus, il va bien finir par sortir ce truc. des nouveaux AirPod Max, pourquoi pas, des nouveaux HomePod super nécessaire et ça doit obligatoirement sortir avant Thanksgiving parce que tous les cadeaux de Noël se font ce jour-là.
Ben oui.
Et donc si Apple n'a pas un redesign des AirPods, ils vont peut-être des HomePod, ils vont
Black
nous sortir
Friday.
Quoi, deux nouvelles couleurs, trois nouvelles couleurs. On a parlé d'un nouveau.
Ça suffira à François pour les acheter s'il y a des nouvelles couleurs.
Oui. Mais en même temps, il a beaucoup de pièces, donc il peut en mettre un peu partout. Donc ça va, tout va bien.
C'est ça. Donc toi, tu crois à des nouveaux HomePod pour Noël?
Avant Noël,
moi aussi.
Oui.
Avant Noël, toi aussi, Gilles. Donc, avec tout ce qui concerne la musique, donc AirPod Max, Apple Classical.
Yes.
Voilà, bon. Apple TV, est-ce que ça va bouger cette année?
Bof. C'est-à-dire, quand tu regardes TVOS 16, la différence par rapport à TVOS 15, déjà, on la cherche toujours. Donc, c'est pas la priorité d'Apple. Hein.
Ouais. Peut-être une édition spéciale For All Mankind, Fabrice, de Apple TV, en forme de vaisseau spatial. Hein.
C'est pas gentil d'essayer de chatouiller mes faiblesses.
Bon, ok, donc on a bien compris, potentiellement deux keynotes. Je suis moins convaincu par la deuxième à venir. La première me semble assez évidente, la deuxième, je sais pas. Et peut-être donc en janvier pour le casque et éventuellement le Mac Pro s'il n'est pas annoncé le mois prochain. Voilà pour tout ce qu'on pouvait. Partager avec vous comme idées, projections sur cette keynote du mois prochain. On marque une toute petite pause et on se retrouve pour une courte mise au point sur la mise au point de Gilles. À tout de suite. Bon Gilles, le sujet c'est toi en fait.
Non, le sujet c'est vos obsessions et vos idées fixes sur Apple qui en veut à vos sous.
Voilà. Alors, vas-y, ta tribune est ouverte.
Donc, ça va être très bref. Hein. Je faisais la semaine dernière l'hypothèse, je ne dis plus l'hypothèse, vous m'avez piqué l'expression. Donc, je supputais la semaine dernière que l'augmentation des prix de l'iPhone, mais également de tous les nouveaux bidules qui ont été présentés par Apple lors de la dernière keynote, était due à la baisse de l'euro par rapport au dollar, dans le scepticisme général, hein, d'ailleurs. Alors, on apprend aujourd'hui, Élie et toi, Benjamin, vous en avez d'ailleurs parlé ce matin, dans la quotidienne, que les applications et les achats intra-applications allaient également faire l'objet d'une augmentation. Macrumeur signale à ce sujet que la cause en est due à l'augmentation du dollar par rapport à l'euro, pour le dire autrement. Alors messieurs, la question est simple, pour vos chapeaux, c'est ketchup ou mayo ?
Cirage peut-être ? Non, mais écoute, non mais écoute, il y a sûrement du vrai dans tout ça, mais est-ce la seule raison ? Ben, j'en suis pas si sûr.
Pour ajouter du piquant à la sauce, Gilles, moi j'ai une question à te poser. Lorsque l'euro aura remonté par rapport au dollar, est-ce qu'on va voir les prix baisser ?
Oui, on a déjà eu ce genre de surprise dans l'histoire.
Non. Si.
Ah bon ?
Si, c'est déjà arrivé, c'est vrai, je crois que c'est arrivé une fois.
Oui, c'est arrivé.
Il n'y a pas si longtemps, mais bon. Ça n'a pas duré très longtemps.
Au moment du renchérissement de l'euro par rapport au dollar, on avait régulièrement des baisses de prix. C'était avant 2005-2006. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais effectivement, ça mérite d'être noté.
Merci Gilles pour cette mise au point cette semaine. On se retrouve dans un instant avec les mises à jour de la semaine. Une première mise à jour qu'on a évoquée tout à l'heure et dont on a parlé plusieurs fois dans la quotidienne depuis une semaine, c'est cette toute petite mise à jour, mais importante, d'iOS, la 16.0.1, qu'on a vraiment intérêt, Élie, à faire dès qu'on sort son nouvel iPhone 14 de la boîte.
Si on peut, c'est-à-dire si on n'a pas des choses à migrer ou si on a un peu de temps, parce que dès que vous lancez la migration d'un iPhone qui est sous iOS 16.0, il y a des fortes chances qu'il bloque, et donc c'est très embêtant. Donc si on peut faire la mise à jour en 16.0.1 avant, c'est mieux.
C'est important ce que tu dis, ça veut dire qu'il faut d'abord penser à la mise à jour, et oui. Une fois que la mise à jour est faite, on se préoccupe de la migration. Comment est-ce qu'on fait ça de manière intelligente ?
Ben, il faut faire une sauvegarde, hein, déjà, avant toute chose, parce que quand vous avez l'iPhone qui bloque, si vous ne l'avez pas fait à travers un ordinateur et que votre iPhone est briqué, ben, on va le restaurer, certes, mais votre contenu, il est où, si vous ne l'avez pas sauvegardé ? Donc, d'autant plus important cette fois-ci, parce que ça bloque au niveau de l'activation, faites d'abord une sauvegarde. Que ce soit sur iCloud, pour ceux qui ont beaucoup d'espace sur iCloud, que ce soit sur un Mac. Ensuite, comme il vient d'être mis à jour et qu'il n'a pas encore été complètement paramétré, vous avez la possibilité d'utiliser l'assistant de migration, en fait le fait de rapprocher les deux iPhones, qui va vous migrer vos données de la meilleure façon qui soit. Ça, c'est mon conseil. On a eu des cas, on en a parlé dans la quotidienne, le jour de la sortie des iPhones, plusieurs clients se sont présentés au SAV avec des iPhones bloqués, et moi-même, quand j'ai fait la mise à jour dans l'après-midi, mon iPhone a été totalement bloqué et j'ai été incapable de le remettre en marche. Il a fallu que je fasse appel à notre technicien préféré iPhone qui a réussi à me le débloquer, mais j'ai passé quelques minutes d'angoisse parce que moi je croyais pouvoir redémarrer tous les iPhones existants dans l'univers Apple, et ben cette fois-ci je n'ai pas pu le mettre en marche tout seul, il a fallu que je demande de l'aide. Et ça, c'était simplement en rapprochant l'ancien iPhone du nouveau, je n'ai rien fait de spécial, hein. Donc grand moment de solitude vendredi après-midi.
Bon, alors, si on est encore sous iOS 15, tous les iPhones n'ont pas la possibilité de faire cette mise à jour vers iOS 16. Si vous avez un iPhone avant l'iPhone 8, vous êtes entre guillemets coincé avec iOS 15. Il y a une mise à jour 15.7 disponible depuis quasiment la sortie d'iOS 16.
Oui, la 15.7 qu'Apple propose et qu'il faut faire, hein, parce que ça rajoute en particulier, ça comble des failles de sécurité, ça rajoute pas de fonctionnalités magiques, hein, mais il faut la faire, vraiment. Et celle-là ne pose pas de problème.
Et puis, ça n'est pas vraiment une mise à jour en tant que telle, en tout cas pas au niveau système, mais c'est l'une des applications que nous utilisons le plus, c'est Safari. Safari qui est disponible en version 16 depuis 8 jours maintenant. Fabrice, est-ce que tu as eu l'occasion de l'installer ? On va rappeler qu'elle elle est compatible à la fois avec Ventura et avec Montray.
Oui, c'était passé un peu inaperçu. Moi, je m'en suis aperçu en fait quelques jours plus tard en voyant ça dans les mises à jour. Ça change pas la vie non plus. Ce qui est assez marrant en fait, c'est que jusqu'à présent, Safari était réservé aux mises à jour de système. Donc, c'est normalement en gros la version de Safari qui vient avec Ventura. Depuis quelques années, quand même, Safari est rétrocompatible avec les versions précédentes. Effectivement, ça apporte donc on peut l'installer dès maintenant sur Monterey. Ça apporte quelques petites choses comme dans la gestion des groupes d'onglets. Que moi j'aime bien, qu'on peut afficher sur le côté. Maintenant, non seulement on affiche le nom des groupes, mais on voit les onglets qui sont à l'intérieur de ces groupes. C'est vraiment pratique pour passer d'un onglet à l'autre, quel que soit le groupe dans lequel il se trouve. Et puis, il y a une petite chose concernant les mots de passe quand on crée un mot de passe avec le trousseau, on peut changer la façon dont ils sont auto-générés pour être sûr de répondre aux besoins du site web qui peut demander au moins une lettre ou au moins une majuscule ou les deux ou un sigle ou ceci cela. Donc ça c'est pratique. Et puis il y a aussi une synchronisation. On peut choisir dans Safari un niveau de zoom. Dire à certains sites oui celui-là il peut demander ma localisation géographique et celui-là ne peut pas ou des choses comme ça, et on va pouvoir synchroniser ça entre les appareils sur tous les appareils sur lesquels on utilise Safari. Voilà, c'est des petites choses bien pratiques voilà, en rappelant que dans iOS 16, iPadOS 16 et donc Ventura, il va y avoir avec Safari et les groupes d'onglets le partage de groupes d'onglets qui, je pense, va être vraiment très pratique. Ça, ça me permet d'en reparler. Quand on est, par exemple, en train de préparer un voyage en famille, on peut se partager des onglets en disant « Tiens, j'ai vu ci, j'ai vu ça, je sais pas, l'hôtel, le train, le ceci. »
Ouais, c'est pas con.
Et ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Ouais. Donc, les groupes d'onglets s'enrichissent. Et je pense que ça, c'est vraiment un gain en interface et en pratique vraiment intéressant.
Eh bien, merci Fabrice pour ces infos sur Safari 16. Donc on conseille.
Oui,
on peut
sûr,
d'ailleurs
oui,
faire cohabiter. Faut y aller. On peut faire cohabiter deux versions de Safari hein, sur le même Mac.
Oui, alors mais pas les versions officielles. Donc si on fait la mise à jour vers Safari 16, ça va remplacer le 15 qu'on avait avant. En revanche, on peut installer la version bêta de Safari dont le nom m'échappe là maintenant. C'est une version donc je te remercie de m'avoir posé la question Benjamin, c'est bien sympathique. donc la version les pré-versions, ça on peut les installer à côté, l'icône est différente, ça on peut faire ça, mais si on fait la mise à jour, non, on perdra Safari 15.
Bon bah écoute, la technologie preview, c'est ça dont tu voulais parler?
C'est ça,
hein, voilà, c'est ça. Il vous remercie.
Bon, merci Fabrice pour ces infos, toujours super, super utiles. Bon, on marque une toute petite pause et puis on revient pour le tuto audio. Je vais vous donner quelques conseils pour réussir votre migration entre deux iPhones. Changer de téléphone, même si c'est pour passer d'un iPhone à un autre, d'un plus ancien à un plus récent, voire même au tout dernier iPhone 14, 14 Pro ou 14 Pro Max, c'est plutôt agréable, mais c'est toujours, c'est vrai, un moment un peu délicat, et on a tous la même question en tête, est-ce que je vais bien retrouver sur mon nouvel iPhone tout ce que j'avais dans l'ancien, mes photos, mes contacts, mes mails, mes applis, etc. Avec les nouveaux iPhones de la gamme 14, comme on l'évoquait avec Ellie, s'ajoute une petite angoisse supplémentaire, celle du plantage total au moment de l'activation. Alors ça n'arrive que sur certains téléphones sous iOS 16, d'où ce conseil que vous donnait quand même Ellie tout à l'heure. Résistez à l'envie de synchroniser vos données en premier quand vous sortirez votre iPhone de sa nouvelle boîte. Pensez d'abord à sa mise à jour pour le faire passer sous iOS 16.0.1 et ensuite, a priori, vous êtes tranquille. On va donc supposer que votre nouvel iPhone est vide, mais prêt, sous iOS 16.0.1. Oubliez-le quelques minutes. La star du moment, celle à laquelle vous allez consacrer toute votre attention, peut-être une dernière fois, c'est votre ancien iPhone. Attendez ce tout dernier moment, histoire d'être à jour et d'avoir vos modifications les plus récentes, et lancez sa sauvegarde. Sauvegarde sur votre Mac, via le câble Lightning, à condition évidemment d'avoir suffisamment d'espace disque sur votre disque dur ou SSD. Sauvegarde via iCloud avec la même condition, disposer de suffisamment d'espace de stockage. L'avantage de la sauvegarde iCloud, elle ne dépend pas de l'intégrité de votre Mac qui peut être volée, perdue ou endommagée. Une fois réalisée, vous pouvez rapatrier cette sauvegarde depuis les serveurs d'Apple à tout moment. Si vraiment vous voulez jouer l'extrême sécurité, faites les deux sauvegardes à la fois en local sur votre Mac et dans le cloud via iCloud. Alors commençons par la sauvegarde iCloud. Comment ça se passe ? Eh bien, dans Réglages, cliquez sur votre nom tout en haut de la fenêtre, de l'écran, puis sur iCloud, puis sur Sauvegarde iCloud, puis cliquez sur Sauvegarder maintenant. Pour info, mes sauvegardes occupent environ 12 gigas. Mais comme j'ai pris le forfait 2 Tera sur iCloud, j'ai largement la place. En fonction de la quantité de données et de la vitesse de votre connexion Internet, cette sauvegarde va prendre plus ou moins longtemps. Ce que je vous conseille, c'est de la lancer avant de partir déjeuner, par exemple, histoire de ne pas attendre inutilement. Et à votre retour, la sauvegarde devrait être terminée. Vérifiez bien quand même la date et l'heure de la dernière sauvegarde réussie. Elle est mentionnée sous le bouton « Sauvegarder maintenant ». Pour sauvegarder en local sur votre Mac à présent, reliez l'iPhone au Mac via un câble Lightning, ouvrez une fenêtre du Finder et dans la colonne de gauche, cliquez sur votre iPhone, puis dans la fenêtre, dans la section sauvegarde, cliquez sur « Sauvegarder toutes les données de votre iPhone sur ce Mac ». Le fait de cocher la case « Chiffrer la sauvegarde locale » sauvegardera aussi vos données de santé et vos mots de passe. Et donc, je vous le conseille, à condition de ne jamais oublier le mot de passe que vous allez indiquer pour cette sauvegarde chiffrée. Vous avez bien fait de prendre le temps et de faire les choses dans l'ordre. Il ne vous reste plus qu'à bénéficier de cette fonction assez magique qu'est le démarrage rapide. Quick Start en anglais, mettez vos deux iPhones l'un à côté de l'autre, quasiment collés, et au bout de quelques secondes, une invitation sur le nouvel iPhone devrait apparaître et vous proposer de le paramétrer en transférant les données d'un iPhone à l'autre. Un peu comme avec l'Apple Watch, vous allez scanner le nuage d'identification qui va s'afficher à l'écran du nouvel iPhone, vous allez entrer le code secret de l'ancien iPhone, et c'est parti. Vous devrez simplement reparamétrer les infos essentielles comme la reconnaissance de votre visage pour Face ID et revalider vos cartes de crédit dans Apple Pay. Toutes vos applis notamment vont progressivement arriver sur le nouvel iPhone comme par magie. Bonne migration et bonne nouvelle iPhone à tous. Nos coups de cœur de la semaine, on va commencer avec toi Fabrice, quel est le tien ?
C'est une petite fonction de iOS 16 dont on n'a pas beaucoup parlé non plus, qui est le retour haptique du clavier, oui. C'est-à-dire des petites vibrations à chaque fois qu'on tape sur une des touches. J'ai adopté ça, je l'ai activé et j'ai pas envie de l'enlever du tout. Je trouve ça vraiment très bien. Ça simule pas la pression d'une touche, mais moi, avoir ce retour, donc une petite vibration grâce au moteur haptique de l'iPhone. C'est vraiment très pratique et très agréable. Ça fonctionne donc y compris sur les iPhones un peu anciens comme le mien, un iPhone 10. Et du coup, je voulais signaler que ça ne se règle pas dans les réglages de clavier, ouais. Mais dans les sons et vibrations. Et on descend un peu et on a du coup retour clavier. Et là, on peut choisir vibration. Et on aura juste un tout petit ressenti à chaque fois qu'on appuie sur une touche du clavier. Et je trouve ça formidable.
Ah oui, ça y est, j'ai activé vibration.
Voilà.
Et je te remercie.
Et ça, c'est vraiment très très bien. Ça fait pas beaucoup, hein. C'est juste un tout petit vibration et je trouve ça très agréable pour avoir un ressenti quand on tape sur une touche.
Ouais. Ben écoute, tu m'as piqué un petit tuto facile, mais c'est pas grave. Non, je plaisante. Ellie, quel est ton coup de cœur de la semaine?
Voilà, ça, alors, il y a un proverbe en Espagne qui dit « Terceras partes nunca fueron buenas », que je vous traduis par « Les troisièmes parties ne sont généralement pas bonnes, sauf ». parce que c'est passé inaperçu avec toutes les annonces Apple, mais vous savez qu'il y a eu le Disney Day. Et oui. Le Disney Day, ils ont présenté toutes les nouveautés et ils ont présenté en exclusivité la bande-annonce de ce que va être Mandalorian saison 3. Et là, c'est juste... Ah mais oui, mais allez voir ça immédiatement sur YouTube, parce que c'est incroyable. Et ça sort déjà, je vous le dis, en février 2023. Ils disent pas quand, mais en février 2023. Ouais. Et la bande-annonce est à couper le souffle parce que, sans spoiler, mais c'est dans la bande-annonce, il y a des croiseurs impériaux, il y a le Mandalorian qui a été puni parce qu'il a enlevé son casque, vous le savez, donc il est en disgrâce. Et il y a surtout le retour de Grogu, et donc, qui va jouer un rôle de plus en plus important dans la série.
Et donc, calmons-nous, calmons-nous. Moi, je n'ai pas vu la saison 2, je viens d'apprendre plein de trucs.
Mais non, t'as rien appris du tout.
Non, non, t'as rien. Mais regarde, d'ici le mois de février, entre Andor et le reste, et Avatar.
Entre Andor. Qui...
Voilà.
Je vais devoir mettre des bips sur la voix d'Eli maintenant. Bip,
exactement. Entre Andor et on fait la sieste, il y a beaucoup.
Mais pourtant, c'est dans la bande-annonce. Donc, si vous voyez la bande-annonce, vous verrez tout ça.
Bon.
Enfin, bon, en tout cas, je vous conseille de la regarder.
Ok, bon, c'est vrai qu'à un moment, il va falloir regarder ce que tu n'as pas encore vu, Fabrice, sinon on va être dans la merde.
Exactement.
Bon, merci Ellie pour... effectivement, j'ai raté la bande-annonce de Mandalorian 3, donc je vais me précipiter. Gilles, quel est ton coup de cœur ?
On va passer des choses moins rigolotes. On vous a parlé à plusieurs reprises de ce studio ukrainien qui est à Odessa, et qui tient et continue à travailler, et qui fait des choses vraiment sympas. Ils ont sorti la version 4.5 de Live Home 3D, qui c'est un logiciel d'architecture, d'abord intérieure, mais on peut également dessiner des maisons de façon extrêmement réaliste, sur des plans 2D et même 3D. Et cette nouvelle version est compatible iOS, et iPad OS 16 quand elle va sortir, avec une nouvelle fonctionnalité qui utilise le scanner Lidl et qui peut
Lidl
Lidar.
Peut-être Lidar, oui.
J'ai cru qu'on était chez Lidl.
Oui. Non, non. C'est un scanner pas cher.
Oui, c'est ça.
Je l'ai installé moi-même.
Avec un scanner de pièces qui utilise le lidar quand il est là, mais il n'a pas besoin forcément. Et bon, c'est le studio s'appelle Belight. Ils ont un certain nombre d'autres logiciels sur à la fois sur l'App Store et sur leur site. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil, d'autant que on n'est pas forcé d'acheter la version complète. On peut le louer pour un ou deux mois quand on a ou trois, on a un projet immobilier, une rénovation où on réfléchit à son futur logement et on l'utilise et puis après on passe à autre chose.
Super, merci beaucoup Gilles pour ce très bon tuyau. Moi mon coup de cœur de la semaine, c'est vraiment tout simple, c'est une des améliorations d'iOS 16. C'est de pouvoir activer le pourcentage dans l'indicateur de batterie restante en haut de l'écran de l'iPhone. Là, par exemple, je vois que dans la petite icône de la batterie, j'ai 75. Donc, je sais que j'ai 75% de batterie. C'est pas forcément essentiel quand la batterie est pleine. En revanche, quand elle commence à arriver vers 30, 20, 10, etc., c'est vachement pratique de savoir exactement combien il reste. Alors ça paraît tout bête, mais ça change la vie et je trouve ça génial. Ça s'active évidemment dans les réglages et dans batterie pour être plus précis. Vous avez le pourcentage de la batterie à passer sur en vert pour pouvoir profiter de ce chiffre qui s'affiche sur votre écran. Voilà, c'est la fin de ce numéro 104 d'iWeek, la semaine Apple. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous, toujours un grand bonheur. Salut Ellie.
À bientôt pour la prochaine émission qui sera la première émission de l'automne.
Exact, exact, puisque ça change la semaine prochaine, la saison. Salut Gilles.
Salut Benjamin, au revoir les amis, et puis à bientôt.
Avec grand plaisir que tu aies été là toi aussi, et salut Fabrice. Bon, on te retrouve sur Twitter, @FabriceNeumann, et sur ton site.
Qui n'a toujours pas changé, pro-fusion-conseil-au-pluriel.fr. Salut les copains, toujours un grand plaisir, merci de ce moment de détente après ces jours et ces semaines un peu longues.
Et oui,
c'est vraiment très chouette.
Ça fait du bien. Nous on se dit à mercredi prochain, nous serons le 28 septembre 2022, ce sera l'épisode 105, avec sans doute les premiers retours sur l'Apple Watch Ultra et donc les AirPods Pro 2 qui arrivent ce vendredi. D'ici là, n'oubliez pas la quotidienne iWeek, l'autre podcast iWeek, 5 jours par semaine, totalement gratuit sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et puis patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté et nous soutenir. Twitter @iWeekNews et Instagram @iWeek.news. Prenez bien soin de vous les amis, parlez d'iWeek autour de vous, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, passez une très très belle soirée, une belle semaine, et donc à mercredi prochain. Salut à tous, bye bye.
Bye
bye bye.
Salut à tous.